Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous allons méditer sur un verset et ma prière c'est que les mots importants de ce seul verset puissent se graver en vous, se graver en moi, parce que c'est une parole vivante et puissante qui va nous donner de comprendre deux, trois choses ce matin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est Jésus qui a dit cette phrase extraordinaire, remplie de puissance et d'efficacité dans la mesure où nous allons croire ce qui est écrit. Et avant de commenter ce verset 16, nous lisons le verset 13 et suivant. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'aime rappeler que ce message, cette réalité, cette vérité de l'amour de Dieu est fondamentale pour être entendu dans l'Église et hors de l'Église. Nous devons savoir que c'est Dieu qui a fait le premier pas vers nous en donnant ce qu'il avait de meilleur, son Fils. Et ce plus grand amour, l'amour extraordinaire de l'univers a été témoigné, a été manifesté à la croix de Golgotha. Personne ne peut dire, il n'y a personne qui pense à moi, il n'y a personne qui m'aime, car un jour Jésus a pensé à toi, spécialement, à celui et à celle qui se sent par le mensonge du diable, qui a réussi à nous faire croire que personne ne pense à moi, personne ne m'aime, et je suis rejeté, oublié par les uns et les autres. Et ce mensonge est brisé ce matin par cette réalité, cette vérité, que Dieu nous aime et qu'il a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ensuite, en comprenant et en croyant que cet amour qui a été manifesté à la croix de Golgotha par le Seigneur, il nous faut maintenant nous prendre une position, une décision, c'est de nous approcher, de venir et de recevoir et de se laisser toucher par cet amour. J'ai encore dit hier soir à quelqu'un à qui je témoignais de l'Évangile, la première chose, c'est que ce n'est pas Dieu qui te demande quelque chose, mais Dieu vient te donner quelque chose. Mais il faut que tu le reçoives, il faut que ton cœur soit ouvert. Pour recevoir l'amour de Dieu, il nous faut ouvrir notre cœur, il nous faut croire. Dieu vient d'abord ce matin pour quelqu'un te donner quelque chose. Il n'attend rien d'autre que tu ouvres son cœur et que tu reçoives d'abord. Et une fois que tu as reçu, tu peux répondre. À ce moment-là, tu peux répondre. Cet amour de Dieu attend une réponse. C'est le oui. C'est le au oui de Dieu à la croix doit répondre, doit correspondre le oui de l'homme envers Dieu. Dieu te dit du haut du ciel, oui, je t'aime. Et à nous de lui dire, oui, moi aussi, Seigneur, je t'aime. Je veux apprendre à t'aimer. Je veux répondre à ton amour. Je ne veux pas rester sourd et indifférent. Non, je veux répondre. Ma réponse personnelle est indispensable. Et puis ensuite, nous recevons, comme dit le texte, le privilège d'être appelés ses amis. C'est-à-dire, il nous associe à ce qu'il fait. Il y a ce lien de confiance et d'amitié, cet attachement, cette appréciation entre amis. Apprécie l'amitié de Jésus, mon frère, ma sœur. Apprécie. Grandis dans l'amitié, dans la complicité, dans la confiance, dans ce dialogue qu'il faut établir avec le Seigneur. Quand le oui de Dieu reçoit le oui de l'homme comme réponse, il y a cette connexion, la conversion, quand je dépose, quand je confesse mes péchés, eh bien, le Seigneur me pardonne, il me lave, et la connexion est établie par la puissance du Saint-Esprit. Son esprit communique avec notre esprit, et nous devenons des amis. Est-ce que ça vous parle, cela, d'être amis de Dieu? Alléluia. Mais avez-vous remarqué que cette amitié est conditionnelle? Normalement, les amitiés, c'est dans la liberté. On choisit ses amis parce qu'on veut être en contact avec quelqu'un. Mais ici, quand même, intéressant de voir que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors là, c'est étonnant, n'est-ce pas, de voir que l'amitié est liée à une condition. Regardez dans Jean 14, versets 15, 21 et 23, vous retrouvez exactement la même pensée. « Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. » Ah oui. Donc si j'aime, je garderai sa parole. Et puis au verset 21, il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et puis au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Donc là, l'obéissance, garder sa parole, compter sur sa parole, obéir et se soumettre à sa parole, c'est le signe clair et net que nous aimons Dieu. On ne peut pas simplement dire « Oh, j'aime le Seigneur » et puis ça s'arrête là. Ce n'est pas une action émotionnelle seulement. Même si Dieu aime aussi toucher nos émotions, il aime nous faire ressentir les choses. Avant tout, l'amour est une obéissance au Seigneur. Et là, peut-être qu'on ne devrait pas seulement dire « Amen » à un ou deux, mais peut-être que toute la salle devrait réfléchir et dire « Oui, ça c'est... » J'aimerais au moins dire « Amen » en fin de culte. Au moins là. « Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. » Est-ce que nous faisons ce que Jésus nous commande? Si tu ne fais pas ce que Jésus commande, ce qu'il ordonne, alors tu n'es pas son ami ou pas encore son ami. Mais tu peux changer. Et c'est en lien dans Jean 14, en lien avec le Saint-Esprit justement, où Jésus dit « Je vous donne mon esprit, c'est lui qui te donnera le courage de l'obéissance, la force de l'obéissance, la capacité d'obéir. C'est lui qui crée ce que tu n'as pas. C'est lui qui change ton cœur, celui qui change ton cœur de pierre en cœur de chair, celui qui te lave d'une eau pure, celui qui vient te donner un esprit nouveau et un cœur nouveau. C'est le Saint-Esprit qui rend l'impossible possible. Alléluia. Et c'est lui qui nous donne la capacité de lui obéir. Alors, encore une fois, Dieu vient par son esprit, mais ma part, c'est véritablement de dire oui à cela. Je veux cela, je m'ouvre à cela et je reçois ce matin. Et dans les trois points que je vais maintenant détailler dans le verset 16, vous allez voir qu'il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu, c'est de nous donner son esprit, les moyens pour obéir et marcher avec lui. Et notre part, c'est de le recevoir et de faire les pas d'obéissance. Parce que Dieu ne peut pas les faire et ne les fera pas à notre place, mes amis. Il ne fera pas ce que nous avons à faire, mais il fera ce que nous ne pouvons pas faire. À lui, les causes impossibles, à nous, les causes possibles. Nous avons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et peut-être qu'on peut dire, mais je ne peux pas, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas le courage, ce n'est pas le moment. Par le Saint-Esprit, tu peux. L'action surnaturelle du Saint-Esprit te permettra de dire oui à toutes les étapes et à tous les pas que Dieu nous demande aujourd'hui. Si Dieu te demande de rompre avec une dépendance, de couper avec un péché, de dire non, de tourner le dos à quelque chose qui n'est pas juste ou qui ne plaît pas à Dieu, c'est qu'il te donne la force pour le faire. Tu reçois toujours, et c'est une phrase qui résonne souvent dans notre culte, tu reçois toujours la force de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Pour faire ta propre volonté, tu n'as que ta force personnelle. Mais pour faire la volonté de Dieu, tu as besoin de la force de Dieu et tu reçois la force de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on veut le dire ensemble? Je reçois la force de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est une affirmation juste. Le verset 16, après cette introduction des quelques versets précédents, le verset 16, nous lisons encore une fois. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » C'est moi qui vous ai choisi. Nous lisons Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde dans le but d'être et de devenir saints et sans défaut, prédestinés par Jésus à être adoptés selon son plan bienveillant. Vous êtes des élus ce matin. Pas besoin de faire de la politique ni d'être dans un parti quelconque pour être des élus. Pour être élu, vous savez, il faut juste une chose. Il faut être candidat. Si vous êtes candidat au salut, vous êtes élu. Pas besoin de dire, mais pourquoi lui est élu et pas moi? Mais toi aussi, tu peux être élu. Il faut juste être candidat. Il faut être partant. Il faut dire, oui, Seigneur, moi, je suis là. Il nous a élus. Galates 1,15, Paul va dire, il m'a mis à part dès le sein de ma mère. Et dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, il est dit, avant que tu naisses, je t'avais déjà consacré et désigné prophète pour les nations. Jésus va dire ces choses dans Jean 14, 15, 16, 17. Ce sont les discours juste avant la passion. Donc les disciples ont vécu déjà plus ou moins 3 ans et demi avec lui. Et puis les disciples se sont dit en écoutant ça, mais c'est nous qui avons choisi de partir avec Jésus quand même. C'est quand même nous qui avons tout quitté, qui avons déposé nos filets, abandonné nos entreprises, notre table d'échangeurs pour Matthieu, etc. Et nous avons abandonné toutes choses pour suivre Jésus. C'est quand même nous qui avons choisi. Mais en fait, non, c'est autrement. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu, c'est lui qui choisit. Aucun enfant ne choisit d'être sur cette terre. Personne d'entre nous n'a choisi d'être sur cette terre. C'est une évidence. Mais c'est bon de se le rappeler que finalement, derrière les choix de nos parents, etc., il y a le choix divin, le choix de Dieu qui a souri à notre naissance, qui a dit « je prends plaisir à cette naissance, à cette venue de cet enfant dans le monde qui va enrichir le monde ». Chacun de nous, nous sommes destinés à enrichir et à apporter quelque chose dans ce monde. Rien n'est inutile dans ce que Dieu a choisi, rien du tout. Parfois, on peut se dire, mais oui, mais les poissons qui naviguent à 100 ou 1000 mètres sous la mer, mais ça sert à quoi? Personne ne les voit. Personne ne sait même qu'ils existent. Tout a une utilité, mes amis. Tout. Tout dans la création a sa place et son utilité. Dieu ne choisit rien pour rien. Il nous a désignés, il nous a choisis et désirés. Et lorsque vous êtes venus sur la terre, il a souri. Il s'est réjoui de votre venu. Alléluia. Vous savez, cette pensée, ça nous aide à vivre, voyez-vous. Ça nous aide à nous accepter tels que nous sommes. Parce que le Seigneur a pris plaisir à notre venue dans ce monde. Nous avons été mis à part dès le sein de notre mère pour quelque chose. Et déjà pour Jérémie, comme pour chacun de nous, nous avons été consacrés à quelque chose. Désignés pour être quelque chose avant notre naissance. Élu avant la fondation du monde. Mais oui, ça remonte à longtemps, hein? Ça remonte vraiment à longtemps. Nous étions déjà dans la pensée du Seigneur. Il nous avait déjà repérés et choisis. Ce matin, tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui a créé en toi un désir, un intérêt, une soif, une attente. Dieu qui crée cela en nous. Oui, mais j'ai soif de Dieu, c'est quand même moi. Non, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Mais c'est moi qui me suis repenti. Oui, mais Dieu a mis la conviction dans ton cœur que tu devais te repentir. Il t'a convaincu, c'est lui qui fait ce travail. Oui, mais c'est quand même moi qui suis venu, qui a dit oui. Oui, mais c'est lui qui t'a donné le courage, la force pour répondre. C'est lui qui a changé ton cœur. Mes amis, tout est grâce. C'est un choix de grâce et non pas parce que nous méritons quoi que ce soit. Personne d'entre nous ne mérite la moindre. Tout est grâce, tout vient de lui et c'est pourquoi toute la gloire revient au Seigneur. Rien à nous, toute la gloire est au Seigneur. Si c'est lui qui nous choisit, alors il doit assumer. Et il va assumer parce que ses promesses sont là pour nous le dire. Il nous prend en charge, il assume et assure, il veille, il pourvoit, alléluia. Lorsque Dieu dit « je choisis », c'est lui qui paye. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui est notre providence. Maintenant, notre part, ça revient au message de notre frère, c'est de croire, c'est de faire confiance, c'est de croire que l'intention du choix de Dieu, c'est un bon choix. Et on ne doit pas dire, Seigneur, mais tu t'es trompé en m'appelant à être ceci ou à faire cela. Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre? Vous savez, quand Moïse a contesté son appel, ça a été une première fois, ça a été une deuxième fois, puis la Bible dit que Dieu s'est fâché. Il ne faut pas contester l'appel de Dieu. Il ne faut pas contester le choix du Seigneur. Même si vous vous sentez et si vous estimez et votre regard sur vous-même, il est peut-être misérable et lamentable ce matin, il faut que ça change. Parce que si vous estimez que vous n'êtes pas digne du choix de Dieu, vous déshonorez le Seigneur et vous l'offensez. Parce que Dieu a dit, moi je te choisis, pourquoi tu contestes ça? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Pourquoi tu n'es pas à l'aise avec ça? Est-ce qu'il y a besoin de guérison quelque part? Est-ce qu'il y a besoin, avant même d'une guérison, de briser un mensonge du diable? Le diable est un menteur et il cherche à empêcher l'Église de s'épanouir, de se lever comme une épouse sans tache ni ride et comme une armée puissante en lui faisant croire qu'elle n'est rien, comme Goliath. Vous n'êtes rien, vous ne savez rien, vous n'êtes que des esclaves de Saül. Et cette intimidation mensongère a paralysé dans la peur toute l'armée d'Israël. Brisons ce matin les mensonges du diable qui veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'élection, que c'est pour les autres. Nous ne sommes pas élus, nous ne sommes pas mis à part, nous ne sommes pas désignés, nous n'avons pas été consacrés ni choisis. Oui, le Seigneur assume. Et notre part, c'est d'accepter que c'est un chemin de foi, d'accepter qu'il y a des inconnus. C'est un chemin étroit de dépendance au Saint-Esprit. Permettez-moi de rappeler, notre frère, il est dépendant de son épouse et il fallait qu'il mette sa main sur son épaule et qu'il aille prendre place. Dépendance, dépendance paisible, dépendance heureuse, parce que c'est votre ami, le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui nous met en confiance par sa présence. Je suis là, pourquoi avoir peur? Ça rejoint la parole donnée ce matin. N'ayons pas peur. Libérons-nous de ces fardeaux, de ces carcans de crainte. Il nous a choisis. C'est un chemin de foi et un chemin étroit aussi. Et c'est dans cette dépendance-là que nous porterons du fruit. Ne nous laissons pas effrayer. Dans Luc 10, verset 1, il est dit que le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Le mot désigner, c'est pointer du doigt. Tu es nominé, tu es désigné, hein, tu es exposé, tu es désigné. Et encore une fois, je dis Seigneur, merci, parce que tu m'as désigné. Je pense à lorsque dans une cour de récréation avec des enfants ou dans les camps, on voit qu'à un moment donné, il y a deux équipes qui doivent être formées. Et puis, on met les deux meilleurs footballeurs ou les deux meilleurs sportifs. C'est eux qui sont à la tête capitaine. Puis, ils doivent choisir les enfants. Ah, moi, je prends celui-là dans mon équipe. Puis, l'autre dit, ah, moi, je prends celle-là. Et puis, qui reste sur le carreau? Peut-être que vous êtes un jour resté sur le carreau. Le Seigneur dit, mais moi, je ne veux pas que tu restes sur le carreau et que tu sois considéré comme le moins bon joueur. Et que celui qui ne sait rien faire et qui a une très mauvaise estime de soi parce qu'il ne sait pas faire grand-chose. Le Seigneur te désigne. Le Seigneur te désigne. Est-ce que nous sommes d'accord de nous laisser désigner? Même pendant que je vous parle, on peut prier, on peut dire, Seigneur, j'accepte de me laisser désigner. Tu me choisis. Désigne-moi aussi, Seigneur. Tu ne me laisses pas sur la touche parce que je ne suis pas capable ou bien je ne suis pas bon assez pour ci ou pour ça. Seigneur, tu me désignes, je te remercie de me désigner, je te remercie de me pointer. Je me souviens, en tant que jeune converti, j'étais au groupe de jeunes et j'étais donc dans mes études d'ingénieur, etc., à l'époque. Et je me souviens, un soir, je ne sais pas si c'était un pasteur ou un ancien qui est venu prêcher, et puis il s'est approché de moi et il m'a dit, « Et toi là, pourquoi tu ne veux pas te lever pour servir Dieu ?» Et à l'époque, moi qui venais d'un milieu traditionnel, catholique, comme en Belgique, où tout le monde l'était à l'époque, cette pensée me faisait terriblement peur. Parce que je me dis, mais j'ai pas envie de répondre à ça. Je me voyais dans une image religieuse, je me voyais déjà porter une soutane jusque terre, avec une immense croix sur la poitrine et devoir partir pour bénir les gens et puis prier. J'avais une image tellement incroyable, déformée. Mais c'était la seule image que j'avais. J'en pouvais rien. C'était la seule image que j'avais, donc j'avais peur de me lever pour servir Dieu. Et je me disais, mais je vais perdre toute liberté, ma vie va être fichue. J'ai entré dans un système incroyable. Et puis, ça me faisait peur. Mais Dieu va à notre rythme. Dieu n'a pas fait pression sur moi à ce moment-là. J'ai laissé ça un petit peu de côté Et pas à pas, mon ami m'a pris par la main, il m'a conduit d'une étape, dans une deuxième étape, une troisième étape. Et puis, alors que certains disent, oui, moi j'ai un appel pour ceci, moi j'ai un appel pour cela, moi j'avais pas d'appel. Mais Dieu m'a pris par la main. Il m'a conduit d'un pas à un autre. Un pas d'obéissance a été succédé par un deuxième pas d'obéissance, etc. Je me suis mis simplement au service. Et après quelques années, plusieurs années, beaucoup d'années, j'ai trouvé ma place. Et je peux vous dire une chose. Si quelqu'un me dit, Walter, t'es pas à ta place, je souris. Je dis, mais j'ai rien à te prouver. J'ai rien à prouver. Je sais tellement que Dieu m'a appelé. Il m'a fallu tellement d'années pour le découvrir tranquillement. Mais quand Dieu a sa main sur vous, mes amis, vous n'allez plus jamais en douter. Ce n'est pas possible. Vous n'allez plus jamais en douter. Tellement, quand Dieu nous désigne, nous sommes bien dans notre peau, nous sommes bien dans notre identité, nous grandissons dans notre vocation profonde. Et tout ce que l'on fait, à un moment donné, c'est démontrer, pas par vous-même, mais par les autres, que c'est bien votre place. Vous avez été désigné par le Seigneur. Passons au deuxième mot de ce verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça, c'est la première pensée. Donc, il nous faut accepter avec joie ce choix de Dieu. Et ensuite, il nous est dit, « Et je vous ai établi afin que vous alliez. » Avant d'aller, avant d'être envoyé, avant d'entrer dans un service, un ministère ou de faire quelque chose pour Dieu, il nous faut être choisi, numéro un, établi, numéro deux. Il nous faut d'abord recevoir la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, avant d'aller évangéliser et de parcourir le monde. Il nous faut d'abord être revêtu d'un équipement. Marc 3, 13 est un verset clé dans ma vie personnelle. Jésus les a pris auprès de lui pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Numéro un, il nous prend pour nous avoir avec lui. Et ensuite, numéro 2, étape numéro 2, pour nous envoyer. D'abord, il faut être avec lui pour prendre conscience de « Je suis choisi, je suis ton ami Seigneur. » Et maintenant, tu m'établis dans mon identité d'homme et de femme. Tu m'établis dans mon identité de ce que j'ai reçu comme vocation profonde. Tu m'établis dans mon appel et tu me donnes un sens à ma vie. Regardez ce que Dieu a fait avec Adam au jardin d'Éden. C'est exactement ça. Au début, Dieu a posé Adam seul dans un jardin. Et le texte nous dit qu'il devait faire quoi dans ce jardin? Il devait bosser, travailler. Il était d'abord établi dans un job, dans un travail. C'est important pour un homme d'avoir du travail. Et ceux qui n'ont pas de travail, il faut prier pour eux pour qu'ils en trouvent rapidement. Parce qu'un homme qui n'a pas de travail, ça ne va pas. Ça va un certain temps, puis après ça ne va plus. J'ai remarqué ça. Donc, il est établi dans ce jardin. Il a une parcelle à cultiver et à garder. Il a deux choses à faire. Il doit travailler et puis protéger son jardin. Puis ensuite, Dieu l'établit dans son couple. Et il doit faire quoi? La même chose. Il doit cultiver sa femme ou avec sa femme. Il doit cultiver, il doit encourager, il doit faire sortir quelque chose de ce sol dans son jardin et il doit, dans son couple, il doit encourager, il doit mettre en avant, il doit se démener dans son imagination pour encourager son épouse à progresser, la motiver, il doit prendre soin, faire équipe, faire grandir, etc. etc. Il doit pourvoir à ses besoins. Il doit cultiver quelque chose dans son couple. Est-ce que, mes frères, est-ce que vous êtes posés dans votre couple pour cultiver votre bien-aimé? Est-ce que, mes sœurs, vous sentez que vous êtes dans un terrain de culture? Est-ce que vous sentez dans un jardin où ça pousse? Où il se passe des choses? Où il y a des belles choses qui se passent parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin et qui met tout ce qu'il faut en œuvre pour cultiver, encourager, motiver et réjouir celle que vous êtes. Parce qu'une femme qui est dans un univers où elle se sent à sa place, aimée, prise soin, considérée, respectée, etc., eh bien, elle va fleurir comme une fleur. Elle va s'épanouir comme une plante. Mes sœurs, faites-moi un signe que c'est d'accord. Là où tu es placé, il faut que tu puisses fleurir. Et puis après Adam, après avoir été posé dans le jardin pour travailler, posé dans son couple pour faire ce travail que Dieu lui demande, et il va être posé dans sa famille pour sa vocation, et puis après, bien sûr, dans son appel encore beaucoup plus large. Là où tu es posé, prends racine, parce que Dieu t'établit. Ça, c'est son travail. Notre part, c'est d'accepter, mes amis, écoutez bien, c'est d'accepter que c'est un processus. C'est un processus. Parce que nous sommes impatients. Et on entend aujourd'hui des messages, par exemple, faut que tu vives ton rêve, il faut que tu vives ta destinée, il faut que tu entres dans tout ce que Dieu... Et ça met une espèce de pression sur certains qui se disent, mais c'est où le sommet du plan de Dieu que je n'ai pas encore gravi? Où est ce sommet que je ne connais pas? J'ai l'impression que je suis tout en bas et on nous prêche... Parfois, les hauteurs, il faut influencer la ville, il faut influencer la terre entière, il faut influencer l'univers entier et les autres galaxies avec. Et vous avez l'impression que vous n'influencez même pas votre voisin ni votre famille, personne. On vous donne des objectifs inatteignables et puis vous dites, mais le plan de Dieu, mais je suis nulle part. Et vous êtes écrasé par une culpabilité parce que nous sommes impatients. On veut être tout de suite au sommet de nos rêves. Être à l'étape numéro 10 alors que nous avons encore à passer la 1, la 2, la 3. Et on oublie que Dieu nous façonne dans le secret, qu'il pose les choses les unes après les autres tout doucement et que le temps travaille avec lui. Le temps travaille avec lui. Et nous, on veut brûler les étapes parce que les autres avancent et vous avez l'impression que les autres avancent et vous êtes en retard et vous mettez une pression sur vous-même et vous avez l'impression que ça ne marche pas pour vous. Seigneur, je suis en retard, les autres sont devant moi, ils réussissent leur vie, et moi je suis en arrière. Ce matin, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Ne te compare à personne, mon ami. Ne te compare à personne. Enlève cette pression de ta vie. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu ne te choisit pas pour rien du tout. Il te choisit pour quelque chose. Tu porteras ton fruit en ton temps. L'arbre portera son fruit en son temps. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes choses. Mes amis, j'aimerais le redire dans mon propre témoignage. Après plus de 35 ans à plein temps dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que pendant des années, j'ai travaillé dans l'ombre. J'ai travaillé dans l'ombre. Nous avons travaillé en couple dans l'ombre. Et si aujourd'hui nous avons plein d'invitations, nous sommes connus par nos sites internet, nos vidéos, nos etc., etc., c'est restons humbles et pieds sur terre. C'est rien du tout cela. Parce que simplement, le fruit, il appartient à Dieu. Ce n'est pas notre résultat de vie. C'est le fruit de Dieu au travers de nous. Mais pendant des années, il y a eu le travail dans l'ombre, sans invitation et sans rien du tout. Mais c'était un parcours indispensable. Ne cherche pas à gravir, à être déjà sur l'estrade alors que Dieu te veut d'abord dans l'ombre, fidèle dans les petites choses. David a dû garder les brebis de son père seul avant de régner sur Israël. Nous n'aimons pas les détours ni les temps morts, mais nous devons savoir que la nature même nous enseigne que l'hiver est nécessaire, que l'automne est nécessaire et que ce n'est pas tout le temps l'été. Dieu doit nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses les unes après les autres. Personne n'obtient un master ou un doctorat en une nuit ou dans une pochette surprise. Jésus lui-même devait apprendre en grandissant en stature et en maturité. Il devait apprendre par les choses qu'il a souffert. Oui, c'est marqué. Il t'établit quand même, le Seigneur, pour que tu sois à ta place et bien dans ta peau. Et j'aimerais dire à vous tous, Dieu utilise toutes les expériences de votre vie pour quelque chose. Tout dans la vie sert à quelque chose. Si vous êtes connecté au Seigneur, ne dites pas ça, pourquoi c'est une perte de temps, pourquoi ça ne marche pas. Il y a quelque part une utilité. Toute chose, croyez-le, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés, nous dit le texte, appelés. Toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui sont appelés. Et certains passages nous sont imposés et sont obligatoires. Est-ce que vous croyez que Paul, il a choisi de faire naufrage, d'être lapidé, d'être en prison, d'être dans les chaînes, d'être abandonné de tous? Il n'a jamais choisi cela, mais Dieu les a choisis pour lui. Il n'aurait jamais choisi lui-même ces choses. Et il y a des passage que nous ne pourrons jamais choisir nous-mêmes, nous ne pourrions jamais choisir cela nous-mêmes. Mais Dieu nous les impose parfois pour notre éducation et notre formation. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et ces choses, mes amis, ce ne sont que des traversées, ce ne sont que des passages. Ce n'est pas les choses établies. C'est des choses passagères, comme dit l'apôtre Paul, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Les choses éternelles sont invisibles. Alors, laisse-toi établir par le Seigneur. Dernière chose, Dieu nous a choisis, il nous a établis afin que nous allions et que nous puissions porter du fruit. Pour que nous puissions porter du fruit demain, nous devons être attachés à lui aujourd'hui. Si tu veux que ta vie porte du fruit, il faut que tu sois tout le temps attaché au cep. Il faut en tout temps être attaché au cep pour à un moment donné vraiment porter du fruit. Et ce sera le fruit de Dieu au travers de ta vie. Ma part, ce n'est pas de porter du fruit. Ça, c'est la vie surnaturelle qui produit automatiquement du fruit, d'accord ? Ma part, c'est de rester attaché. Vous avez compris, dans ces trois points, il y a la part de Dieu et puis il y a notre part. Ma part, c'est de rester attaché au Seigneur, coûte que coûte. Il n'est pas suffisant de bien commencer, il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Et je termine en disant, rappelez-vous le message qu'il faut veiller sur soi-même. Il faut veiller sur soi-même, sur son esprit, son âme, sa langue, son corps. Sur beaucoup de choses, il faut veiller sur soi-même. Et je vous relis ce verset que j'avais médité avec vous il y a quelque temps, 2 Jean 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Demeurez en lui afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et ce fruit qui demeure, c'est lorsque le chrétien arrive dans sa phase de maturité. Et lorsque nous sommes dans la phase de maturité, nous devenons non plus des chrétiens centrés sur nous-mêmes, où il faut tout le temps que nous soyons au centre de quelque chose, mais nous devenons des pères et des mères spirituelles qui pensent aux autres. Et le fruit, c'est pas pour nous-mêmes. Le fruit, c'est qu'un arbre fruitier, les fruits, c'est pas pour l'arbre. Le fruit, c'est pour les autres, pour partir au loin. Le fruit appartient aux autres. C'est ça la maturité. Porter du fruit, c'est pas être centré sur soi. Alors, c'est ces paroles-là que je voulais vous partager ce matin, tout simplement. Retenez Jean 15, verset 16, que je vais relire une dernière fois. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Merci Seigneur. « Et je vous ai établi, c'est un processus, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Ça, c'est Dieu qui le fait. Et que votre fruit demeure. Et ça se termine par une merveilleuse promesse encore. Pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Parce que vous n'allez plus à ce moment-là demander n'importe quoi, des prières auxquelles Dieu ne peut pas exaucer, qu'il ne peut pas répondre. Mais vous allez prier selon le cœur de Dieu. Amen.